Dans une seconde avec nous en plateau, notre invité de 22h50, avec quelques minutes de retard ce soir, on s'en excuse, le patron de Lidl en France, Michel Biérot, pour savoir jusqu'où les prix en supermarché pourraient grimper, alors que certains nous prédisent un mur d'inflation, savoir ce qu'il y aura dans le panier anti-inflation qui arrive justement bientôt en magasin. Et puis les clients ont-ils aujourd'hui le pouvoir de faire reculer les prix en faisant pression sur les grandes enseignes? Bonsoir Michel Biérot.
Bonsoir.
Ça fait beaucoup de questions pour vous. Merci d'être avec nous. Je disais patron de Lidl, votre titre exact, c'est directeur exécutif achat et marketing de Lidl France.
C'est ça, on est plusieurs patrons.
Ah, vous êtes plusieurs patrons. j'aime bien poser les choses. Combien de magasins en France ?
1591.
1591, c'est précis. Combien de clients français ?
Écoutez, chaque semaine, plus de 13 millions, 14 millions.
13 millions, 14 millions. C'est à peu près le même nombre de téléspectateurs sur BFM TV sur une semaine. Non, mais c'est vrai. Sur une journée. Pas sur une semaine, mais sur nous, c'est sur une journée. Pardon. C'est sur une journée. Pour vous interroger à mes côtés, vous l'avez compris, Roselyne Bachelot, Anton André et Pauline Simonet, qui est venue avec un certain nombre de produits qu'on va vous présenter dans une seconde. Mais d'abord, est-ce que vous êtes capable de dire ce soir quand l'inflation va vraiment se calmer?
Ben, on va croiser les doigts, on va espérer que pour le deuxième semestre 2023, ça va se calmer un peu. Il y a déjà quelques signes, certaines céréales qui baissent, mais voilà, faut rester prudent. Ce qui est certain, c'est que les négociations actuelles sur les marques nationales, qui se terminent le fameux 1er mars à minuit, elles sont en cours. Et celles-ci, clairement, vont annoncer une inflation assez importante dans les mois qui suivent. Pas tout de suite. Un confrère a parlé du mars rouge.
Ouais.
Moi, je parlerai plutôt des 4 mois qui vont suivre jusqu'à l'été, parce que il y a des stocks chez beaucoup de distributeurs et chez nous, et donc les hausses vont passer au 1er mars, mais vont être l'effet dans les magasins. Ça va plutôt être avril, mai, juin.
On va parler des négociations évidemment ce soir. On va parler de ce qui va suivre après ces négociations. Effectivement, cette surinflation d'une certaine manière qui va venir s'ajouter à partir du mois de mars, c'est ce que vous disiez. Mais je suis obligé de revenir sur ce que vous venez de nous donner, cette petite lueur d'espoir. Vous vous dites deuxième semestre, on peut espérer que ça se calme.
On nous avait promis le deuxième trimestre, hein, déjà, il n'y a pas...
Écoutez, on fait ce qu'on peut, Roselyne Bachelot.
C'est comme la ligne d'horizon, hein, ça se recule au fur et à mesure qu'on avance. Hein.
Je rejoins Madame Bachelot, je n'ai pas de boule de cristal. Il y a des signes aujourd'hui.
Alors quels signes? Vous dites les céréales, quels signes?
Il y a certains produits qui sont, ou certaines matières premières qui sont de nouveau, soit se sont stabilisées, soit sont un petit peu en recul. Donc on peut espérer que le deuxième semestre, c'est effectivement... Alors attention, il y a deux types de produits, il y a les marques nationales et il y a les marques de distributeurs. Une marque nationale, c'est le fameux 1er mars. Une marque de distributeur, on négocie tout au long de l'année.
Ouais.
En 2022, chez Lidl, par exemple, où les marques de distributeurs représentent 90% de notre assortiment, on a négocié 3 fois plus de contrats que l'année précédente. Donc, ça montre bien qu'on négocie en permanence.
Vous vous battez tous les jours?
Tous les jours.
Tous les jours. Sauf que, inflation au mois de décembre, 5,9%. Inflation sur les produits alimentaires, général. On ne parle pas simplement des magasins Lidl, mais on est à 12,2%. 12,2%. C'est le moment de faire votre pub. Chez Lidl, à combien vous êtes?
9.
9, mais quand même 9. Pour un magasin qui, comment dire, une marque qui affiche en permanence sa volonté d'avoir des prix bas, vous êtes quand même à 9% d'augmentation.
Oui, mais on subit l'inflation comme tout le monde. On a des hausses tous les jours. On a passé je ne sais combien de hausses dans la viande, dans les œufs, dans les pâtes, mais pas depuis un an. Ça a commencé en août 2021. Donc, bien sûr qu'on subit l'inflation. Mais c'est différent, pourquoi? De par notre modèle de 90% de marque de distributeur, on sera toujours le meilleur rapport qualité-prix, quoi qu'on fasse et quoi qu'il arrive.
Pourquoi?
Mais parce qu'on a 90% de marques de distributeurs qui sont en moyenne entre 20 et 30% moins chères qu'une marque nationale dont l'assortiment est le plus important chez tous mes concurrents.
Je le disais, 12,2% de hausse pour les produits alimentaires sur un an, ce qui amène les consommateurs à changer parfois leur comportement. Pauline Simonet, ça veut dire aussi changer les habitudes d'achat. Vous avez fait vos courses.
Oui,
avec Roselyne. Non, je rigole, vous avez fait vos courses.
Non, on dirait François Ruffin.
C'est-à-dire?
Il avait posé des boîtes de petits pois au moment de la baisse de l'APL.
C'est absolument. Bon, là, c'est pas le même sujet, mais pourquoi ces produits-là, Pauline?
Alors, donc, je vous ai amené d'abord une série de produits emblématiques. Vous les citiez d'ailleurs certains, donc les pâtes, les œufs, le sucre, hein, qui a beaucoup augmenté énormément ces derniers temps. On va reparler un peu plus tard des pommes et justement des compotes de pommes. Donc c'est voilà pour vous montrer ces produits, certains de toute première nécessité qui ont très fortement augmenté. Et effectivement, pour faire face à cette inflation, on a remarqué que eh bien, les consommateurs, ils changent non seulement leur mode de consommation, mais aussi leur façon de faire les courses. Je vais en citer quelques-uns. Ils mangent par exemple moins de produits frais, de produits bio, surtout la viande et le poisson se fait de plus en plus rare dans les caddies. Ils font des plus petites courses plusieurs fois par semaine au lieu de venir une fois par semaine faire des grosses courses. Ils n'hésitent pas à abandonner des produits en caisse quand c'est trop cher. Ils se tournent vers les produits de marque distributeurs et puis ils sont beaucoup plus que d'habitude à l'affût des promotions. Et ça a parfois des impacts un peu inattendus. Ça peut provoquer des ruptures de stock sur certains produits. C'est pour ça que j'en viens à ces compotes de pommes que mes enfants, en tous les cas, adorent. D'ailleurs, il n'y en a plus. et en fait, il y a eu, les prix ont très fortement augmenté ces derniers mois. Ils ont finalement diminué récemment parce que le prix des pommes avait diminué. Et du coup, les gens se sont littéralement jetés sur ces produits dans certains supermarchés à tel point qu'en fait, il n'y en avait plus en rayon. Pas parce qu'il y avait des véritables pénuries, mais parce que voilà, les gens s'étaient rués dessus. Exactement. Et on retrouve cet effet de stockage sur différents produits, sur les pâtes notamment, sur les féculents. Par exemple, quand il y a des promotions sur certains produits, eh bien, on remarque que les gens vont en acheter, plutôt que d'acheter un seul paquet, ils vont acheter deux paquets. Le sucre, ça c'est vraiment intéressant, ça a très fortement augmenté, vous allez peut-être me le confirmer, mais ce que disent beaucoup de distributeurs, c'est que les gens, soit ils font carrément l'impasse, ils en achètent moins que d'habitude, ou ils font l'impasse sur le sucre, ou essayent de trouver des produits de substitution. Et puis terrible aussi, les produits d'hygiène, hein, certains produits sont devenus, pour beaucoup de consommateurs, des produits de luxe. On achète le shampoing éventuellement, mais plus forcément de l'après-shampoing.
Tout ça, vous le notez, tous les phénomènes, les changements de comportement que vient de décrire Pauline, même chose chez Lidl ?
Même chose chez Lidl. Les gens viennent plus souvent, donc la fréquence augmente, mais le panier, comme madame le disait, diminue. Donc je pense que c'est psychologique aussi, ils ont l'impression de moins dépenser. Alors à chaque passage, ils dépensent moins, mais ils viennent plus souvent.
Mais ils dépensent moins, en réalité. C'est-à-dire que les dépenses alimentaires des Français, j'ai regardé avant de venir, ont baissé de 4,6% sur un an.
Oui.
Ça n'est pas arrivé depuis 1960. C'est-à-dire que ça donne quand même une idée de l'ampleur de la crise et du fait que ça impacte directement non plus seulement les textiles ou les produits de beauté.
On est d'accord.
Mais l'alimentaire. Les gens se nourrissent moins.
Oui, mais Antonin, c'est aussi peut-être une façon vertueuse aussi de se nourrir quand on sait que 30% des produits alimentaires sont jetés. Une des conditions pour justement qu'il y ait moins de gaspillage, c'est aussi de faire ses courses plus souvent. Parce que quand on remplit un caddie, voilà.
Donc, cet indicateur est quand même assez saisissant.
Et sur les fêtes de fin d'année, donc sur les produits festifs, on est même jusqu'à moins 10% d'achat des Français. Donc oui, bien
si
évidemment,
on mange moins de chocolat, c'est aussi bien.
Mais ils changent aussi d'habitude. Ils achètent moins de non-alimentaires. On est une enseigne qui, tous les lundis, tous les jeudis, vous le savez, vendons des sneakers, des perceuses, des machins. Ils en achètent moins pour justement privilégier l'alimentaire. Donc, on est un peu atypique dans le monde de la distribution et donc, on n'a pas les mêmes chiffres. Je constate, les moins 10%, c'est de façon globale, sur le marché global en France. Chez nous, on est à plus 2 sur le mois de décembre. Donc, on a plutôt performé. Pourquoi ? Pour les changements d'habitude que vous évoquiez, c'est-à-dire que beaucoup qui achetaient des marques nationales jusqu'à présent se dirigent vers les marques de distributeurs que nous avons en masse dans notre assortiment.
Mais vous disiez tout à l'heure 13 millions à peu près de clients par semaine. Est-ce que vous arrivez à mesurer le nombre de nouveaux clients qui vous ont rejoint ? Parce que vous avez gagné des parts de marché ces derniers temps chez Lidl, mais ça se chiffre en quoi ? En millions là aussi ?
En centaines de milliers de nouveaux clients toutes les périodes. Ça, c'est Kantar qui l'analyse.
Ouais.
Et ils disent que toutes les périodes, c'est à peu près un mois, une période, pour faire simple, il y a 13 périodes dans l'année,
ouais.
On gagne entre 400 et 500 000 nouveaux clients. Donc, ce sont très clairement des clients qui disent, chérie... Et d'ailleurs, il y a un confrère à vous sur BFM qui avait fait un micro-trottoir, qui avait vu une cliente avec un caddie rempli chez nous et qui disait, vous êtes une cliente habituée. Non, c'est la première fois de ma vie que je viens. Mais je me suis dit, tiens, c'est quand même beaucoup moins cher. On va tester, on vient pour le prix, mais on reviendra seulement si la qualité est au rendez-vous. Parce que le client français, malgré l'inflation, il y a une chose qu'il veut, c'est manger bien et manger français.
Et on sait si elle est revenue, cette dame, ou pas ? Vous savez si elle est revenue ? On ne sait pas si elle est revenue, cette dame.
Je ne le sais pas, mais je pense qu'elle est revenue.
Dans ce contexte, il y a une déclaration que vous avez faite qui m'a surpris. C'est que vous dites qu'il faut interdire la promotion sur le lait ou sur la viande. qui sont pourtant des produits dont les coûts ont beaucoup explosé et dont les Français se privent aujourd'hui. Pourquoi il faudrait supprimer les promotions sur ces produits qui sont des produits du quotidien et qu'aujourd'hui certains Français ne peuvent plus se payer? Moi, j'ai pas compris cette assertion.
Alors, c'est très simple. Quand vous faites une promotion, c'est 90% des promotions, c'est des marques nationales. Et c'est la marque qui paye la promotion. Faut jamais oublier ça. C'est l'industriel. C'est Coca-Cola, c'est Nestlé, c'est Procter et tous ces gens-là.
C'est eux qui font l'effort.
Bien sûr.
C'est pas vous.
Non. Quand vous avez que des marques de distributeurs, qui est notre cas, chaque fois que je fais une promotion, qu'elle soit de 10% ou de 20%, c'est ma marge. Je demande pas à l'industriel ou à la PME de me financer la promotion. Donc, de façon générale, nous, on fait pas de promotion. On a ce qu'on appelle le juste prix tout au long de l'année. D'accord? Donc, quand je dis, je l'avais dit dans le cadre de la loi, de la proposition de loi de Monsieur Descrozaille, qui, dans l'article 2, disait que non seulement il faut prolonger cet encadrement des promotions de 34% en valeur et 25% en volume.
Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'aller au-delà, de proposer à vos clients au-delà de 34%. Ça n'existe plus. Des promos au-delà de 34%, ça n'existe plus en
Exactement.
France.
Donc moi, je dis top, mais il faut le mettre sur toutes les lessives, ce que tous mes copains ne veulent pas. Mais moi, j'ai pas de problème. Est-ce que vous trouvez normal que toute l'année, vous payez le bidon d'Ariel 15 euros et trois fois dans l'année, vous l'avez à moins 90%? Mais quel est le vrai prix du bidon d'Ariel? Il n'y a plus de notion de juste prix. Et c'est ça qui est important. Et quand j'ai dit, il faut, à mon sens, interdire les promos sur le lait, le porc et le bœuf, pourquoi? Parce que ce sont des filières aujourd'hui en France en très grande difficulté. Et est-ce que si vous achetez un pack de lait, le deuxième à moins 50, d'une très grande marque, qui est d'ailleurs en promo ce matin chez un de mes confrères, j'ai pas la marque Lactel.
Vous avez donné la marque, c'est bien.
Achetez deux packs, parce que le deuxième est à moins 50. Est-ce que demain matin, vous allez consommer deux bols de lait? Non.
Non, pas vrai,
non. Évidemment. Vous consommez qu'un seul bol de lait tous les matins.
Enfin, donc, si vous avez une famille nombreuse,
ça peut vous intéresser.
Oui, mais vous ne consommez pas plus. Donc la consommation.
Non. Enfin, vous payez moins cher votre lait.
Mais alors, on peut le mettre au bon prix toute l'année. Plutôt que de le mettre très cher et de faire de temps en temps des promotions. Ça n'a pas de sens.
Une chose que vous disiez quand Pauline présentait ses produits, en disant, effectivement, les gens font des efforts, de gros efforts sur l'alimentaire, mais aussi sur le non-alimentaire, et surtout sur le non-alimentaire. Vous avez été effectivement connu pour des promos qui ont affolé tout le monde sur un certain nombre d'appareils. Il y avait le Monsieur Cuisine, je me souviens, qui se vendait comme des petits pains, cette espèce de robot ménager, etc. Aujourd'hui, ça, ces phénomènes-là, ça n'existe plus.
Alors les phénomènes tels qu'on les a vécus avec le Monsieur Cuisine, non, on n'existe plus. Et il y a une baisse, on voit dans notre chiffre d'affaires sur ces produits non alimentaires, il y a une baisse très claire et très nette.
Mais y compris pendant les fêtes,
de l'alimentaire.
Y compris pendant les fêtes, où là, quand même, on est revenu dans des enseignes moins chères pour aller acheter des jouets, pour aller acheter des petits objets.
Y compris pendant les fêtes, elle a été moindre. On a dû... Là, pour le coup, on a dû faire des promos. On a fait avec notre carte de fidélité, ça aussi, on a mis en place pour justement fidéliser les clients. On a fait des promos sur les jouets en bois, sur enfin tous les cadeaux de Noël qu'on a pu vendre pour essayer d'attirer. Malgré ça, il y a une baisse de vente.
Mais est-ce que ça veut dire, Rosine, est-ce que ça veut dire que vous retirez des produits de vos rayons? Oui.
Non.
Parce que si trop cher, parce que
plus,
devenu...
Si les produits ne vendent plus, c'est les filières qui disparaissent aussi.
Je n'ai pas dit qu'ils se vendent plus, j'ai dit qu'ils se vendent moins. Donc on en vend toujours. Mais quand, dans notre jargon, on appelle ça un taux de destruction. Mais si vous en aviez 100, on met en vente le lundi. Qu'à la fin de la semaine, vous en avez vendu 80, c'est une réussite. Mais quand vous en vendez plus que 70, c'est toujours pas grave. Mais il vous en reste 30 en stock. Donc c'est juste une baisse. On continue à vendre et on va continuer à proposer ces produits-là. Bien évidemment, il y a quand même beaucoup de Français qui veulent se faire plaisir.
Ce qui me frappe, et j'en reviens à ma première intervention, c'est que finalement les crises ne font qu'accélérer des mouvements qui sont profonds dans la société. Et que la question dont on se nourrit, d'où proviennent les produits, tout ce qui est... qui fait partie du débat sur l'écologie, la lutte contre le réchauffement climatique, etc., les circuits courts. Est-ce que finalement, ce que l'on vit, qui est évidemment le résultat d'une crise violente et qui frappe évidemment les plus modestes, est-ce que c'est pas aussi le moment de reconsidérer un certain nombre de choses? Moi, je suis frappé quand je fais mes courses dans un hypermarché, par exemple, par le nombre de produits transformés qui sont achetés, les bouteilles de soda hyper sucrées. Enfin, est-ce que c'est pas le moyen aussi de se dire, est-ce que finalement on gaspille pas notre argent?
Probablement, vous avez raison, mais en même temps, nous, notre travail, c'est de répondre à une demande du consommateur. Donc, si moi, Lidl, j'enlève ces produits dont vous parlez, trop sucrés, alors on travaille sur le taux de sucre, on travaille sur le taux de sel, hein, à réduire, parce qu'on veut toujours être...
Faites gaffe, elle a été ministre de la Santé.
Oui, non, mais on veut toujours être meilleur.
Non, parce que je me suis tellement bagarré avec les industriels de l'agroalimentaire...
Bah voilà. Et ben moi, je veux pas avec mes équipes pour diminuer les taux de sucre sur les produits, pour avoir une meilleure note sur le Nutri-Score, etc. Mais en même temps, si demain, j'arrête de vendre un soda très connu, ben, les clients, ils vont aller chez quelqu'un d'autre l'acheter.
Ah non, mais
je suis dans un marché concurrentiel et je me dois de répondre, alors avec les meilleurs produits possibles, mais je me dois de répondre aux demandes des consommateurs.
Alors attendez, pardon, marché concurrentiel, on va écouter la concurrence, évidemment. Vous le disiez tout à l'heure, fin février, fin des négociations avec vos fournisseurs, au 1er mars. Votre concurrent, Michel-Édouard Leclerc, d'une certaine manière, ne les supporte plus, ces fournisseurs, enfin j'exagère en disant ça, en tout cas une partie des fournisseurs, qui réclament des hausses mirobolantes. On l'écoute.
Ce que je vois, c'est qu'il y a des PME en France, même de la boulangerie, des PME de boulangerie industrielle, des PME de l'agroalimentaire, de la charcuterie, elles sont transparentes. Elles nous amènent leurs factures et c'est clair, quoi. Une hausse de telle ampleur sur le canigou, le ronron, le frisky, 39%, mon Dieu, montrez-moi. Et ils ne nous montrent pas. Et donc, nous sommes...
Il n'y a pas de transparence et il n'y a pas d'obligation de transparence?
Non, il y a une obligation de certification par les commissaires aux comptes que les éléments apportés à la connaissance de l'administration et de Leclerc sont... Non, mais c'est des conneries.
c'est des conneries. Ben voilà, c'est des conneries, Michel Biron.
Il a raison.
Alors, on n'est pas souvent d'accord avec M. Leclerc.
Il va y avoir un mais.
Non, mais pour le coup, oui.
Bah oui, c'est évident. Hein.
Pourquoi je n'ai que 10% de marque? Parce que déjà, on est une enseigne à dominante marque de distributeurs, mais aussi parce que les 10% de marques, les grandes marques, je ne parle pas des PME françaises qui font de très belles marques dans ce pays, mais les multinationales, qui d'ailleurs ont quelque part un petit peu poussé, et c'est pour ça qu'on en reparlera peut-être de cet article 3 de la fameuse PPL des Crozailles, mais les multinationales, je suis désolé, ils ne sont pas transparents pour la grande majorité. Je ne dis pas... que tous sont pareils. J'ai d'ailleurs conclu des multinationales il y a 3 semaines, il y a 1 mois. Ça y est, c'est réglé, j'ai pas attendu le 1er mars. Mais la plupart me demandent aujourd'hui entre 15 et 49% de hausse. 49% de hausse pour une multinationale.
Pardon, toutes. Attendez.
Non, je ne citerai pas de nom.
Alors, donnez-nous un indice. Non, mais c'est 49% de hausse.
Pardon,
Roselyne, j'enquête.
C'est une grande multinationale qui ne fait pas beaucoup d'alimentaire, qui fait beaucoup de non-alimentaire.
Mais
juste pour vous dire.
On est dans l'hygiène.
Pourquoi pas?
On est chez L'Oréal.
On est chez L'Oréal,
Michel Biron.
Non, L'Oréal, ça se passe plutôt bien, d'ailleurs.
Je vais tenter.
Ce que je veux dire par là, c'est juste que 30% de hausse, pourquoi pas? L'inflation est galopante, pourquoi pas? Mais il faut juste nous expliquer un minimum. Je ne leur demande pas une transparence du compte de résultat, mais qu'on vienne avec peut-être des factures N-1 et enfin l'année d'avant et l'année en cours pour nous dire, regardez, carton qui compose votre produit, il a pris 60% de hausse. Un minimum de transparence.
Si les distributeurs s'organisent, vous, Michel-Édouard Leclerc et les autres, et vous dites, bah, c'est très bien, on se met d'accord, nous, en France, on ne prendra pas les produits de cette multinationale-là.
Ça, on n'a pas le droit de le faire. Hein.
Ah, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous ne pouvez pas dire, bah, vous n'êtes pas obligé d'acheter.
Oui,
vous n'êtes pas obligé de distribuer.
Il ne faut pas s'entendre. Vous ne pouvez pas vous entendre avec Michel-Édouard Leclerc et les autres.
D'accord, mais enfin, si les distributeurs, sans s'entendre, mais chacun pense un peu la même chose dans leur coin.
Mais c'est ce qui va se passer. Je suis très clair ce soir. Une multinationale qui nous demande 30% de hausse sans aucune justification, j'arrête de travailler avec.
Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui.
J'ai 90% de marques de distribution.
Vous l'avez déjà fait là, ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous avez déjà dit non à une multinationale.
Non, parce qu'on a encore un mois pour en discuter.
Ah oui, d'accord.
Mais ça dépend quel produit, parce qu'on parlait de Coca-Cola, mais il y a toute une série de céréales, des marques que les consommateurs adorent et c'est difficile de s'en passer.
Mais bien sûr, mais même Coca-Cola. Moi, j'ai envie de garder Coca-Cola et j'ai envie qu'on trouve un accord.
Il y a un rapport de force, quoi.
Il y a un rapport de force, mais il y a tout. Avec une PME française, il y a un rapport de force également, mais on discute, ils nous montrent de la transparence et on signe. On veut pas refuser les hausses, qu'on ne se méprenne pas. On est conscient qu'il y a une inflation qui est terrible de la matière première, en passant par les outils de production, les outils industriels. Donc, bien sûr qu'il faut payer des hausses, mais on veut juste de la transparence.
Bon, mais au bout du mois de février, 1er mars, grosso modo, ces hausses dont on parlait tout à l'heure, elles seront de combien ? Les hausses que vous allez devoir appliquer, elles seront de combien ?
Si rien ne bouge, entre 15 et 49%.
Entre 15 et 49%,
mais
en moyenne.
Je pense qu'on sera autour de 10, au moins 10%.
Donc ça veut dire que sur les semaines qui suivront le 1er mars...
Oui, ça va être répercuté, sur les prix de vente. Alors, encore une fois, chez nous, ça touche heureusement qu'une toute infime partie de notre assortiment, mais ça va être répercuté. Alors peut-être pas dans l'intégralité, parce que c'est aussi notre rôle parfois de jouer tampon. Mmh. C'est-à-dire que sur les pâtes, quand en août 2021, on s'est pris des hausses de 25-30%, on a répercuté peut-être que 20-22% sur le prix de vente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rogne sur notre marge. Ouais. Mais à un moment donné, on peut pas ne faire que rogner sur la marge.
Ouais,
on est une entreprise, comme n'importe quelle entreprise, on doit sortir un résultat pour
et
pouvoir
donc,
réinvestir.
Soit il y a des grosses augmentations, soit il y a des produits qui vont disparaître de vos rayons notamment ou d'autres distributeurs.
Des très grandes marques, de grandes multinationales, probablement il y en a l'une ou l'autre qui va disparaître.
Ouais. Est-ce que ça veut dire...
Peut-être pas indéfiniment, peut-être qu'ils reviendront avec de la transparence. Moi je demande juste de la transparence. Un minimum de transparence.
Mais est-ce que ça veut dire que, comment dire, vous voyez déjà aujourd'hui, parce que les consommateurs entendent ce qu'on dit ce soir, ce que vous dites depuis des semaines, etc. Est-ce que vous voyez déjà certains qui viennent en se disant, tiens, ça, c'est pas très cher, en tout cas, ça va augmenter, ça risque d'augmenter dans les semaines qui viennent, je veux en prendre plus aujourd'hui. Non. Est-ce que vous avez déjà ces phénomènes-là ?
Non.
Non ?
Non.
Il n'y a, pas de stockage ?
Non, il n'y a pas de stockage.
Bon.
Il y a du stockage quand il y a des grands phénomènes comme on a vécu sur les pâtes, ou sur les compotes, qui d'ailleurs étaient un autre souci aussi. Il y a eu plusieurs facteurs sur
ou
les compotes.
Le papier toilette.
C'était les pots. les pots qui, pour la plupart, sont faits en aluminium à l'intérieur. Et l'aluminium vient d'Ukraine. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement chez les fournisseurs. Et c'est pour ça qu'on a eu des très, très gros problèmes d'approvisionnement.
Rassurez Pauline, sur les compotes, tout va bien.
Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Vous pouvez venir demain. Je vous en livre une palette, si vous voulez.
Et il y a certains rayons où il y a les eaux, notamment, où il y a eu des problèmes. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Des eaux gazeuses, des œufs. C'est dû à quoi, le fait qu'ils ne soient plus là dans les rayons ?
Il n'y a pas de phénomène de pénurie. Il n'y en a jamais eu ces deux dernières années. C'est juste que il y a des problèmes d'approvisionnement de matières premières chez les industriels. Et donc, parfois, ils ont des coupures pendant une semaine. Et quand vous avez une semaine sur une référence d'eau où l'industriel ne vous livre pas, vu les rotations énormes que nous avons dans nos magasins, forcément, ça crée une rupture.
Il y a des questions de coûts aussi, puisque je rebondis sur ce que disait Pauline. Il y a des fabricants d'eau minérale, des eaux minérales qu'on n'a pas retrouvées dans une enseigne près de chez moi d'un supermarché et qui indiquaient aux clients, nous refusons de répercuter la hausse massive de ces eaux-là et d'accord. Donc vous ne les trouverez plus en rayon.
Voilà.
Donc il y avait une transparence aussi vis-à-vis du client, je trouve. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve par réflexe que ça abîme effectivement cette marque et que effectivement, quand on se dit, on voit ça, je trouve plus mon eau de... On se détourne de cette eau-là et on se dit, dorénavant, même si elle revient, j'ai pas envie de l'acheter.
Peut-être. Il y a eu aussi un name and shape très intéressant avec les marques qui ont réduit les contenances et qui ont réduit...
Ça, c'est un jeu assez habituel.
Des marques, ça reste le même prix, mais en fait, il y a 10% de matière en moins et pour garder la marge.
Michel Bureau, il faut qu'on parle de votre dernière arme anti-inflation. Une arme parmi d'autres, c'est le panier anti-inflation. Alors le gouvernement essaie de promouvoir cette idée-là, c'est-à-dire un panier de produits de première nécessité à prix très bas, quelques dizaines de produits. On va voir ce que disait la ministre du Commerce, Olivia Grégoire, à ce propos-là. Au départ, d'ailleurs, c'était une vingtaine de produits, maintenant ce sera peut-être une cinquantaine de produits. Voilà ce que dit Olivia Grégoire, faire en sorte que les Français puissent avoir sur un panier du quotidien des prix attractifs. J'ai à cœur qu'il y ait aussi des produits de qualité, des produits frais, des produits bio. Qu'est-ce que vous répondez ce soir ? Vous dites oui ?
Oui.
Ah, vous dites oui.
Oui, j'ai dit oui. Je l'ai dit ce matin et oui. Je pense que c'est une idée intéressante. Après, encore une fois, on est atypique. Donc pour nous, pour moi en tout cas, c'était évident que je réponde oui. Je veux dire, on a accompagné le gouvernement sur beaucoup de demandes, sur les masques, sur les tests antigéniques. Et là aussi, je vais l'accompagner parce que voilà, je pense que c'est important d'accompagner ce genre d'idées. Maintenant, j'ai envie de vous dire, mon panier anti-inflation, il est composé de 2000 références.
Oui, c'est tout ce qu'il y a dans vos magasins.
C'est tout ce qu'il y a dans mon magasin. Quand mes concurrents en ont 50 000. Donc déjà, c'est, C'est pas le même rapport. Par contre, oui, on va sélectionner un panier là dans les jours qui viennent.
Combien de produits?
Une cinquantaine de produits. Oui, parce qu'effectivement, mais c'était des discussions entre les équipes de la ministre et nos équipes, et on avait dit effectivement que 20, c'était un peu trop peu pour. En fait, il faut prendre, et c'est là le choix des produits est important, il faut prendre des produits du quotidien, ceux qui sont le plus fréquemment dans les placards des consommateurs.
C'est-à-dire concrètement des pâtes, de l'huile, du sucre.
Alors il y en a qui ont sorti des listes de 100 produits, 200 produits, 150.
Système U dit 150, oui.
Oui, mais après, dans les 150, il y aura ce panier de la ministre qui va l'affiner. Mais il y a d'autres concurrents qui ont mis une bouilloire, un grille-pain. Est-ce que c'est vraiment les produits du quotidien?
Ce qui m'a étonné, moi, c'est la date. Parce que,
le 1er mars
Non, dès maintenant. C'est-à-dire que Système U le fait dès le 1er février. Et je me suis dit, il y a un lien avec mars. C'est-à-dire, on vient de parler de l'inflation qui allait galoper probablement après mars. Et je me dis, évidemment, il y a aussi une stratégie marketing de Système U ou de certaines enseignes qui disent on le fait dès le 1er février pour fidéliser des clients qui vont venir chez eux et qui garderont, qu'ils espèrent garder quand ça va exploser en mars. Est-ce qu'il y a aussi cette concurrence-là entre les enseignes?
Bien évidemment, chaque enseigne essaye de fidéliser un maximum de consommateurs pour qu'ils restent chez lui. C'est évident, nous aussi. Mais il a dégainé le premier, hein, pour être très clair. Voilà, nous on avait déjà dit dès le départ, on avait dit à Madame Grégoire qu'on s'engageait et qu'on allait la suivre. Et donc on va faire ce panier. Ça va être dans les jours, dans les semaines à venir. Mais le choix des produits est important. Il faut des produits du quotidien. Il faut mais aussi des produits d'hygiène, des produits ménagers. Il faut un peu de tout. Donc on est en train de voir quels produits on va mettre.
Pour que ceux qui nous regardent ce soir comprennent bien, il y aura dans les paniers de chaque enseigne les mêmes produits. Parce que le but qui était affiché au départ, c'était quand même que ça puisse servir de comparateur et que les clients puissent, de manière assez facile, se dire, tiens, sur ce panier-là, Lidl est moins cher qu'un tel, ou telle enseigne est moins chère que telle autre.
Alors, pas forcément, parce que par famille, on va raisonner plutôt par famille de produits, parce que du fait de notre assortiment restreint, de 2000 références, un besoin, un produit, on n'a pas forcément toutes les références du panier U, par exemple.
Enfin, donc, c'est pas compliqué de s'entendre.
Mais des œufs,
c'est pas compliqué de s'entendre sur 50 produits.
J'entends, mais peut-être que lui, il a mis les œufs bio par 6, et moi, je vais mettre les œufs plein air par 12. Oui. Donc, c'est des œufs.
Mais pourquoi?
Le besoin est le même, mais le prix n'est pas le même.
Juste une chose, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de créer quelque chose qui va faire que précisément, on ne pourra pas comparer? Parce que certains vont se dire, si vraiment on peut comparer, bah, il va y avoir de la casse.
Quand on peut comparer, forcément, il y aura une espèce de concurrence encore plus forte.
Ben oui.
Et les uns les autres vont dire, moi, il faut que je baisse le prix.
Il va être content, lui, il y aura plein de gens chez Lidl.
Il y a une chose qui était importante.
Vous êtes bête, Maxime.
Mais elle a raison.
Merci, Rosé. Elle n'encourageait pas, attendez.
Mais il y a une chose qui était importante dans la phrase de la ministre, c'est des produits de qualité. D'accord ? Mettre des produits premier prix, pour moi, ça n'a pas de sens. D'une, c'est pas bon pour le client.
Pourquoi c'est pas bon ?
Les premiers prix, c'est en termes qualitatifs, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. En termes de Nutri-Score, si on veut revenir sur les bienfaits des produits, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas bon pour les agriculteurs français parce qu'il faut pas les oublier. Il faut pas vouloir aujourd'hui dire on fait des paniers à prix cassé. D'ailleurs, Madame Grégoire elle l'a peut-être dit la première fois, mais elle a bien redit dans cette phrase, on veut des produits de qualité, pourquoi pas même du bio. Et il y aura du bio dans notre panier. Donc, faut pas oublier les agriculteurs, les éleveurs français. On ne va pas casser le prix d'un steak haché, parce qu'on ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, ils subissent une inflation terrible, il faut rémunérer. Je ne vais pas casser le prix d'un litre de lait. Donc, je vais certainement mettre du lait dans mon panier, mais je ne vais pas casser le prix.
Alors, on verra dans une seconde avec Antonin un exemple, notamment aux États-Unis, de voir si, est-ce que les consommateurs, en arrêtant d'acheter des marques trop chères, ne vont pas, d'une certaine manière, reprendre le pouvoir et obliger ces marques-là à rester bien calmes sur leur prix. On verra ça dans une seconde. Mais juste avant, on voit que tout le monde cherche la parade face à l'inflation. Vous avez de nouveaux concurrents qui apparaissent. Il y en a un qui a pas mal fait parler de lui ces derniers temps, c'est Tout Juste.
Ouais.
Évidemment, nouvelle enseigne, premier magasin à Alès, ce sera le 1er mars, avec un nouveau principe, il y a un accord de long terme entre le magasin et ses fournisseurs, des fournisseurs qui entrent au capital du magasin, qui s'engagent sur des dizaines d'années, je crois une vingtaine d'années, à fournir le magasin, mais qui en échange récupèrent une partie des bénéfices. Et à l'arrivée, d'après celui qui crée cette enseigne et qui est passé par un certain nombre d'enseignes de la grande distribution en France, à l'arrivée, ça fera des prix entre 5 et 10% en dessous du marché. C'est ce que promet le patron. Est-ce que cette concurrence-là vous inquiète ?
Alors, je me réjouis parce que toute concurrence me fait, moi, avancer. Parce que je vais regarder.
Ça, c'est de la lampe de bois.
En plus, c'est un Alsacien comme moi, donc,
oui.
C'est plutôt bien. Je me réjouis de son arrivée. Maintenant,
quand il va s'installer à côté d'un Lidl, vous serez peut-être pas pour moi.
Ouais, mais on reviendra. Vous me réinvitez dans un an et on en reparle. Moi, je veux bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, attention. Il y a un magasin qui va ouvrir. Il en compte, je crois, 40 pour la première année.
Il espère 70 magasins d'ici un an.
Voilà, 70 magasins d'ici un an. 40 d'ici la fin d'année. Ok, j'attends de voir, mais la promesse d'être moins cher que moins cher, c'est compliqué en voulant sauvegarder le monde agricole français, en voulant rémunérer correctement, enfin toute la chaîne, la chaîne alimentaire.
Il y a un modèle de circuit court, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans son modèle à lui, c'est vraiment un engagement. Et il discute en ce moment avec les producteurs. Et il y a par exemple, moi j'ai pris l'exemple d'un producteur d'une charcuterie avec qui il discute et qui dit, on va passer le jambon non pas à 15 euros le kilo comme on le vend en certaines enseignes de grande distribution aujourd'hui, mais à 10 euros le kilo. Mais il s'y retrouve parce que effectivement, un quart des bénéfices en réalité lui reviennent directement. Et donc, il n'y a plus d'intermédiaire, il y a une négociation directe entre le distributeur et le producteur.
L'idée est bonne, l'idée est pas mal. Ça me fait penser un peu, d'ailleurs, de là où je viens, il y a beaucoup de magasins de producteurs qui se créent tous les jours. Et il y a, déjà 7000 références, ça me paraît énorme pour un magasin qui veut faire justement du circuit très court. Les magasins de producteurs dont je parle, ils ont 300, 400 références. Et l'idée, elle est très bonne. Mais après, une fois qu'il va grandir, qu'il va avoir beaucoup de magasins, en termes d'approvisionnement, faut pouvoir servir. Faut que votre charcutier, il puisse le servir en volume.
Vous voulez dire qu'il y a des intermédiaires aussi qui seront.
Les intermédiaires. Moi, je suis en direct avec des charcutiers, mais c'est des charcutiers qui sont devenus des industriels. Parce que j'ai besoin de volume pour approvisionner mes 500 magasins.
Vous pouvez avoir des producteurs qui soient répartis sur le territoire et qui font que ce sera pas les mêmes partout. En fait, c'est ce qu'on comprend aussi, c'est-à-dire que vous aurez pas forcément les mêmes produits dans le tout juste de la Loire et dans le tout juste du Pas-de-Calais.
C'est ce qu'on fait aussi déjà à travers nos tripartites. On inclut les éleveurs, on inclut l'industriel, on est tous transparents. C'est quelque part ça. C'est du circuit très court. Mais il trouvera jamais l'éleveur qui lui livre l'entrecôte dans son magasin. Il faut toujours passer par un industriel. Des abattoirs, des industriels de viande, il n'y en a pas 50 en France.
Non.
Je ne les connais pas.
Antonin, question grave et lourde ce soir. Non. Est-ce que les clients peuvent reprendre le contrôle et faire reculer l'inflation ?
Alors, il y a une bonne nouvelle qui vient des États-Unis, c'est que l'inflation était à 9,1% en juin dernier, donc très très élevée, plus élevée que chez nous en France, et qu'elle est passée à 5% sur un an au mois de décembre. On voit ces chiffres-là. Et une des raisons qui explique ce repli de l'inflation, pas la seule évidemment, mais à la marge et quand même de façon significative, c'est le comportement des consommateurs qui, en réalité, depuis un an, les dépenses alimentaires aux États-Unis ont aussi chuté de 3%. Et ces consommateurs-là, par exemple, ne consomment plus ou très peu de saumon, peu ou très peu de poisson, peu de viande, beaucoup moins de viande. Et donc, les marques qui fournissent ces produits-là sont obligées de contenir leur prix, voire de ne pas répercuter les hausses, si elles veulent continuer à pouvoir vendre. C'est-à-dire qu'on se demande si le consommateur n'a pas aussi un pouvoir qui est celui de ne pas acheter, et en n'achetant pas ou en menaçant certaines marques qui ont besoin de ces marchés-là, eh bien, on arrive à les obliger à contenir leurs prix. C'est en tout cas un phénomène qui est observé aux États-Unis. Est-ce qu'en France, le consommateur peut avoir ce pouvoir-là également ?
Alors, je n'observe pas aujourd'hui ce phénomène, mais bien évidemment, le consommateur a tous les pouvoirs. C'est lui qui décide de tout. Nous, on n'est que qu'une entreprise qui
propose.
Exactement. Nous ne sommes qu'un prestataire. Donc, le consommateur décide de tout et je trouve ça extraordinaire. Si demain il pouvait décider d'arrêter de boire une grande marque de boisson qui est 30% plus chère en France que n'importe où ailleurs en Europe, pourquoi? Pourquoi les 30% plus chers en France qu'ailleurs en Europe? J'en sais rien.
Alors, attendez,
les Français sont prêts à débourser cet argent.
Exactement. Et c'est là que les consommateurs, ils devraient dire, eh ben, on va calmer, on va en boire moins.
Bah oui, mais faut être transparent. Attendez, Michel Giraud, faut être transparent. De quelle marque vous parlez?
C'est Coca-Cola.
Un grand industriel de boissons gazeuses. Mais.
Et donc, Lidl, c'est pas mal parce que vous avez une vision très européenne. Très européenne et vous ouvrez des pays en permanence, etc. Enfin, vous ouvrez des magasins dans des pays en permanence. Mais vous dites que, par exemple, sur telle marque de soda, on paye en France 30% plus cher que les autres.
En moyenne, les produits des multinationales, donc les grandes marques nationales, sont 10% plus chers en France que partout ailleurs en Europe. D'accord ? Mes parents habitent l'Alsace. Ouais. Depuis tout gamin, on va en Allemagne, on passe la frontière, acheter les marques en Allemagne.
Mais enfin, vous expliquez ça comment ?
Mais il faut poser la question aux concernés.
Mais est-ce que c'est aussi, et par rapport à ce que disait Antonin, est-ce que c'est aussi parce que les clients sont prêts à payer plus cher qu'ailleurs ?
Mais parce que le français, il a été biberonné par ces marques, par du marketing très fort, et donc...
Bah, ils l'ont fait aussi dans les autres pays, ce
non,
marketing.
Non. Dans les autres pays, les gens sont beaucoup plus pragmatiques. Ils veulent un bon produit à un bon prix. Qu'il s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, le produit. Ils veulent un bon produit à un bon prix.
On est plus sensible aux marques, nous.
Ah ben bien sûr, les Français sont 100 fois plus sensibles aux marques.
Alors que les
Belges, on va même plus loin.
On est réfléchi.
C'est pas cher égale pas bon. Et quand on a, quand parfois certaines marques où il y a une baisse de prix trop importante, on va même se poser la question, tiens, il y a peut-être un loup, c'est peut-être plus aussi bon. Et il y a, dans les années 80, il y a Renault qui avait fait
une magnifique pub. Vous nous dites là que les Français sont stupides.
Pas assez cher, mon fils.
Oui.
Et c'est exactement, ça traduit parfaitement la mentalité des Français.
Mais donc, juste une chose. Vous avez une vision globale, encore une fois. Vous pourriez dire à telle ou telle enseigne, grande marque internationale dans l'alimentaire, dire, mais attendez, moi je sais qu'en Espagne, je l'achète moins cher. Qu'est-ce que vous me faites là?
Mais je le dis tous les jours. Vous imaginez bien que des multinationales, on leur en parle tous les jours. Je reviens d'Espagne.
Oui, vous avez passé pas mal de temps en Espagne.
Voilà, donc je sais très bien les prix qui sont pratiqués en Espagne. Ce ne sont pas les mêmes qui sont pratiqués en France. Mais pas plus les prix de vente que les prix d'achat. Hein. C'est pas parce que je vends plus cher cette fameuse boisson que je gagne plus d'argent en France qu'en Espagne ou en Italie.
En fait, on se fait avoir.
Un petit peu.
Bah oui, c'est ce que j'ai compris.
Une question d'actualité sur... Je veux pas revenir sur la retraite, Maxime, mais juste... Puisque comme
on va revenir sur les retraites un peu.
Alors je veux pas déflorer, mais
comme
vous avez beaucoup de magasins dans toute la France, combien vous avez dit déjà?
1600, 1500.
Est-ce que vous observez une sensibilité, une éruptivité chez vos salariés sur cette question des retraites? Et est-ce que il y a des grèves, des mouvements de grève ou des frétillements de mouvements de grève dans votre secteur de la
construction? Non, il n'y a pas de frétillement de mouvements de grève par rapport à ça. Alors, j'imagine bien que nos salariés sont autant préoccupés que les Français aujourd'hui. Et je pense que si vous prenez nos 45 000 salariés, les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure, ça se traduit chez nos salariés, bien évidemment.
C'est-à-dire les 71% de mécontents, enfin de défavorables à la réforme.
On n'a pas fait de sondage, mais j'imagine.
Peut-être même 100%.
Mais ça veut dire qu'on ne fait pas grève chez Lidl?
Aujourd'hui, il n'y a pas de grève. Enfin, alors il y a certainement des gens qui ont participé aux journées,
au défilé.
Mais aujourd'hui, nos magasins sont restés ouverts, ont fonctionné. Enfin, hier, en l'occurrence, tout s'est bien passé. Quoi.
Mais vous voyez, l'atmosphère dans laquelle on est en train de plonger avec ce conflit qui est en train de se cristalliser autour des retraites. Est-ce que ça, quand on est patron de Lidl, est-ce que ça, c'est inquiétant pour vous qu'un pays plonge dans ce conflit-là?
Alors moi, je le vois. C'est probablement inquiétant. Moi, c'est pas un sujet déjà, c'est pas mon sujet, les retraites, parce que voilà, je pense qu'on est dans une démocratie. Il y a des députés qui ont été élus par les Français.
C'est sur le climat social, quoi. Sur le climat social, sur le ressenti des gens, sur le fait que ça paralyse aussi un peu l'activité économique quand il y a des grèves, il y a des menaces de blocage.
Mais le climat social, de façon générale, il n'est pas top, faut dire quand même. Alors, c'est pas que les retraites. Ça fait 20 minutes qu'on parle de l'inflation. Ça en fait partie des inquiétudes. Donc, c'est de façon générale. Mais sur les retraites, non, j'ai pas.
Mais en gros, est-ce que c'est mauvais pour le business?
Non, on n'a pas vu de baisse sur le business sur les deux journées. Alors la seule baisse qu'on a vue, c'est le magasin qui est proche de la gare Montparnasse.
Ah oui,
Montparnasse était totalement fermé. On a perdu beaucoup de chiffres.
Effectivement,
et ça c'est très.
Bah, si même les salariés perdent des jours de salaire, ils seront plutôt tentés d'aller dans des magasins comme Lidl moins plutôt cher. Que d'aller dans des magasins plus chers.
Effectivement, elle perd pas
ça,
non,
c'est
hein.
Tout bon, là,
Roselyne Bachelot ne perd pas non, vous pouvez l'embaucher quand vous voulez.
Je vais peut-être la prendre comme égérie.
Mais voilà, ce serait bien ça. Je viens de vous trouver du boulot encore, Roselyne.
Ben voilà.
Égérie chez Lidl, c'est bien.
Oui, c'est bien.
Non, c'est bien. Qu'est-ce que vous répondez si je vous demande si vous soutenez la réforme ou pas?
Je réponds pas.
Vous répondez pas? La dernière fois, on avait Dominique Schelcher, il y a quelques semaines, en plateau à votre place. Il a dit oui.
Non, je réponds pas parce que c'est pas du tout mon sujet et je veux pas donner mon avis personnel là-dessus.
Mais pourquoi vous l'embêtez cet homme-là qui vient avec plein de bonnes intentions?
Non, mais il m'embête pas. Moi, j'ai pas de problème. Mais je ne répondrai pas sur ce sujet-là. Non.
Vous répondez pas sur ce sujet-là parce que
je fais confiance aux parlementaires. Il y a plein de choses qui vont être modifiées encore sur cette réforme. Donc laissons faire le travail des parlementaires et on verra le résultat.
Parce qu'on se dit, vu de l'extérieur, qu'il y a un certain nombre de sujets dans cette réforme qui doivent résonner dans un groupe comme Lidl.
Bien
la, la pénibilité, l'emploi des seniors,
les
etc. Les femmes, absolument.
L'égalité,
oui. Tout ça résonne chez vous
mais
aussi.
Mais c'est des travaux qu'on mène en permanence avec nos partenaires sociaux, tous les jours. Donc, bien sûr que ça résonne. Mais voilà, à votre question, quel est mon avis? Je n'ai pas d'avis.
Mais est-ce que vous diriez, par exemple, qu'il faudrait mieux accompagner la pénibilité pour les caissières? On sait que c'est un exemple qui a été donné par le gouvernement, pour les manutentionnaires, etc.
Oui, bien sûr. Tout le monde sait que les métiers de la distribution sont des métiers qui sont compliqués. Mais il y a plein de métiers compliqués. Traire une vache à 5h du matin, 365 jours de l'année, c'est compliqué. Donc oui, on est dans des métiers où il y a des ports de charge, où il y a de la pénibilité, il y a du travail manuel, de la manutention. Donc bien sûr, et bien sûr que j'approuve s'il peut y avoir des choses de fait dans cette réforme pour ces gens-là et pour cette pénibilité.
Et quand le gouvernement dit qu'on va aller voir, notamment dans les grandes entreprises, donc ça peut éventuellement vous concerner, même s'il y a peut-être un phénomène de filiale, etc. Mais qu'on va aller voir, par exemple, comment vous employez les seniors dans votre boîte.
Alors sur les seniors, on est tout à fait ouvert à en discuter. D'ailleurs, on en discute déjà. Pourquoi pas demain faire des emplois retraite. Des cumuls emploi-retraite, merci beaucoup. On est parfaitement d'accord sur ça. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà discutées en interne et sur lesquelles on va continuer à discuter avec nos partenaires sociaux.
On a vu les manifestations hier en France, il y avait des manifestations aussi aujourd'hui en Grande-Bretagne contre l'inflation, pour l'augmentation des salaires, pays différents évidemment, mais je voulais vous faire entendre quand même deux manifestantes croisées aujourd'hui, je crois que c'était à Londres. Deux pays différents, mais alors les revendications et les problèmes, les problématiques qui sont sur la table, tout pareil. Regardez.
Nous sommes tellement convaincus, nous sommes tous dans la rue et les mouvements s'amplifient. Les travailleurs ont besoin de salaires équitables. La crise du coût de la vie. Je pense juste que les gens en ont marre qu'on leur impose autant de choses. Il y a de plus en plus de pression, de plus en plus de choses que vous devez faire. L'équilibre entre le travail et la vie privée a été énormément bouleversé. Il y a un épuisement professionnel massif dans les professions. Ça ne devrait pas arriver. La santé mentale des gens aussi a été énormément affectée. Nous devons prendre position maintenant pour l'avenir.
Coût de la vie, équilibre travail-vie privée, épuisement. C'est-à-dire, on dirait des Français,
la situation est bien pire. Hein.
Sauf que les problèmes sont les mêmes, Roselyne. Oui. Vous dites la situation est pire. Effectivement, il y a le Brexit, etc., qui complique encore la donne pour les Britanniques. Mais tout ça, là aussi, ça résonne. Est-ce que vous sentez tout ça parmi vos employés? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour du rapport au travail?
Mais nos salariés sont des Français. Ils ont les mêmes inquiétudes que les Français. Et donc, bien sûr qu'ils sont inquiets pour l'inflation, ils sont inquiets sur les retraites, ils sont inquiets sur tous ces sujets-là. Mais aujourd'hui, moi je dis aux Français, pour gérer l'inflation, venez dans l'enseigne qui est l'arme anti-inflation. Venez chez Lidl.
Mais sur le rapport au travail, parmi vos salariés, est-ce que vous sentez qu'il y a aussi des gens qui sont... Est-ce qu'il y a toujours autant d'attractivité, par exemple, dans votre travail? Est-ce que vous n'avez pas des problèmes de recrutement? Est-ce que vous n'êtes pas confronté à des gens qui, aujourd'hui, veulent changer de vie et se disent, après le Covid, en fait, j'ai plus envie de me tuer derrière une caisse ou de passer 7 heures par jour à manipuler des palettes. Et en fait, je préfère peut-être gagner un peu moins ou différemment et me détourner. Est-ce que vous êtes confronté à cette crise du sens du travail dans votre secteur?
Oui, bien sûr. On a des problèmes de recrutement. On va recruter sur 2023 2500 nouveaux salariés. Il faut les trouver. Il faut qu'on rende nos emplois le plus attractifs possible.
Désirable, oui.
Exactement,
et comment
désirable.
Vous faites ça, justement? Qu'est-ce qu'il y a comme modification dans le travail, que ce soit des caissières? Est-ce qu'il y a des choses qui sont modifiées pour rendre ce travail plus attractif?
Eh bien, on travaille avec les partenaires sociaux, justement, pour améliorer les conditions de travail en permanence, pour faciliter le travail dans nos entrepôts, où il y a des ports de charge, etc. Donc, de toute façon, si on ne fait pas ça, si on ne travaille pas dans ce sens-là, les salaires, bien sûr.
Vous avez augmenté les salaires en 2022?
On est en pleine négociation aujourd'hui, donc je ne vais pas m'exprimer sur le sujet. Mais
2022, ça a donné quoi chez vous?
2022, il y a une augmentation vous me posez une colle, de 3%.
Ouais.
Et ensuite, il y a eu une revalorisation, donc il y a eu la prime Macron et une revalorisation pour l'inflation.
D'accord.
Mais ce que je veux dire, c'est que on est obligé de rendre attractifs nos postes pour que on attire un maximum de salariés chez nous et de candidats. Mais on subit la même problématique que toutes les entreprises françaises aujourd'hui dans le recrutement.
Mais est-ce que ça veut dire que vous avez plus compliqué. De turnover, par exemple, maintenant?
On est dans un turnover moyenne, dans la moyenne, on va dire, de la distribution française. On n'en a pas plus et pas moins que les autres.
Est-ce que vous pensez qu'on va avoir besoin de main-d'œuvre immigrée, justement, pour pallier à ce manque de main-d'œuvre qu'on a en France dans certains métiers, peut-être aussi chez vous? Est-ce que cette main-d'œuvre immigrée, c'est aussi une façon d'avoir plus de travailleurs qui sont attirés éventuellement par ces emplois-là et qui ont besoin de travailler?
Je ne sais pas si on en aura besoin de plus. Chez nous, aujourd'hui, déjà, il y a plus de 100 nationalités qui sont représentées dans les 45 000 salariés. Donc, on a déjà une diversité qui est très importante. Mais est-ce qu'il faudra plus? Je n'ai pas la réponse à cette question.
Vous faites partie de la liste des métiers en tension? Ou possiblement, il pourrait y avoir des régularisations ou pas?
Non, je ne pense pas. Non, j'ai pas cette info-là.
Alors, vous dites que vous êtes en train de voir comment améliorer les choses, etc. Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics, lance une expérimentation qui est encore très circonscrite d'une certaine manière, annoncée ce matin dans le journal L'Opinion. Un test pendant un an, 36 heures sur 4 jours, donc la semaine de 4 jours à l'URSSAF de Picardie. C'est un test, encore une fois, un an. Est-ce que ça, vous vous dites que, tiens, effectivement, dans le changement lié au rapport au travail, etc., c'est une piste intéressante?
Alors, non seulement on pense que c'est une piste intéressante, mais alors c'est pas du tout, c'est vraiment le hasard.
Ouais.
Il y a quelques semaines, on l'a proposé à nos partenaires sociaux.
Ah oui.
On a proposé de faire un test de la semaine de 4 jours dans quelques magasins aux quatre coins de la France pour voir ce que ça pourrait apporter. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on est dans un secteur, la distribution, c'est pas forcément le plus facile à mettre en place, mais on va faire un test. Et on va regarder après le test l'impact qu'a cette semaine de 4 jours sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée des salariés, sur le turnover dont on vient de parler, etc., etc. Et en analysant cet impact avec nos partenaires sociaux, on décidera si c'est une bonne idée pour notre secteur ou si et donc auquel cas on le déploierait ou si c'est une mauvaise idée.
Mais qu'est-ce que vous espérez de cette expérimentation? Qu'est-ce que vous attendez?
Moi, je pense que ça peut être intéressant, bien évidemment. Maintenant, il faut voir, il faut pouvoir couvrir les 7 jours de la semaine, parce que quand vous ouvrez le dimanche matin, etc. Donc, mais c'est pour ça qu'on a voulu faire ce test et on n'a pas attendu le gouvernement
pour
le coup.
Mais qu'est-ce qui pourrait être positif, du coup? Est-ce que c'est parce que, du coup, pendant ces 4 jours, les salariés pourraient être plus productifs, parce qu'ils se sentent finalement mieux au travail? Qu'est-ce qui peut être intéressant pour...
Nous, on pense plutôt à cette option-là. Ils auront plus de temps libre. Alors, au final, ils n'ont pas plus de temps libre, les trois jours...
Le nombre d'heures ne change pas dans la semaine.
Non, le nombre
d'heures... C'est le même nombre d'heures sur 4 jours.
Mais par contre, du coup, c'est quand même plus agréable de pouvoir passer 3 jours à la maison avec la famille sur 7 jours de semaine. Quoi.
Il y a quand même... Allez-y, Rosine, ouais.
Parce qu'on sait aussi que dans la grande distribution, il y a des horaires de travail très hachés. Parce que effectivement, l'affluence est à des moments divers. Moi, j'ai travaillé dans une grande surface. Enfin, ma pharmacie était dans une grande surface. J'étais au contact avec les personnels. Je les voyais, les filles qui bouffaient dans leur voiture et qui avaient finalement, qui déployaient leurs horaires de travail sur des espaces de temps extrêmement longs. Ça doit être compliqué de faire la semaine de 4 jours avec ces contraintes qui sont les vôtres.
Peut-être ça sera plus facile.
Ou ça sera plus facile.
Peut-être ça sera plus facile parce qu'on aura des personnes qui seront là 4 jours et donc qui pourront, si demain on est à 35 heures, on pourra étaler les 35 heures sur les 4 jours et donc on aura justement plus ces problèmes d'amplitude parce qu'on ouvre le matin à 8h30 et on ferme le soir à 19h30.
Il y a quand même quelque chose qui me frappe. Cette semaine de 4 jours, il y a quelques mois encore, pardon, on avait pas mal de patrons qui nous disaient, et y compris d'ailleurs dans la grande distribution, c'était impossible, c'était une lubie. On s'est quand même moqué de certains candidats à la présidentielle qui avaient mis ce sujet-là sur la table en disant, vous allez voir, on va y arriver. Et des patrons criaient en disant, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est impossible en France, c'est impossible, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, vous, encore une fois, à la tête d'une boîte qui a 40 000 salariés, vous vous dites, là, on tient peut-être quelque chose? Qu'est-ce qui a changé en France ?
On dit pas que ça va marcher. On a subi le Covid. Télétravail. Alors télétravail, là, je parle que pour les
évidemment.
Les,
oui, pour la caissière, siège, c'est compliqué.
Pour la caissière, on a vu, elles sont en première ligne. C'est très
évidemment.
C'est pas très compliqué, c'est impossible. Mais à travers cette période de Covid, on s'est dit pourquoi pas. Encore une fois, on ne dit pas que ça va fonctionner, mais pourquoi pas le tester. On a 1600 magasins, c'est facile pour nous de faire un test. Et on verra derrière le test les impacts, on les étudiera, on les analysera avec nos partenaires sociaux pour voir si ça a un effet positif sur notre activité, sur les salariés, et peut-être pour l'attractivité dont on parlait tout à l'heure pour les recrutements futurs.
Ouais.
Ça aussi, il faut le voir. Les jeunes aujourd'hui, la première question quand vous êtes en recrutement avec eux, c'est combien de jours de télétravail ? Là, je parle pour le siège, encore une fois. Ouais. Pardon. Et c'est pas la majorité de nos salariés, bien évidemment, mais c'est leur première question. Donc peut-être qu'aussi ces quatre jours nous permettraient d'avoir des facilités de recrutement derrière. Il y a plein de questions qui se posent autour de ces quatre jours. Donc on s'est dit, on n'a pas attendu Gabriel Attal. Et il y a quelques semaines, on a proposé ça à nos partenaires sociaux.
Et qu'ont dit les syndicats ?
Pardon ?
Les syndicats, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ?
C'est encore en discussion, mais le test, je pense qu'on va le faire, oui.
Mais ça veut dire que c'est
mais je pense qu'ils sont plutôt pour.
1600 magasins, vous allez le tester dans combien de magasins, pendant combien de temps ?
Quelques magasins, on va pas le tester dans 150 magasins, mais quelques magasins, qu'ils soient bien répartis sur le territoire, nord, sud, est, ouest, mais il faut le tester pendant plusieurs semaines, faut pas le tester trois semaines, ça n'a aucun intérêt.
Alors vous êtes pile poil dans le débat politique, le droit à la paresse, évidemment, qui est mis en avant notamment par Sandrine Rousseau, qui est critiqué par Gérald Darmanin. Écoutez le ministre de l'Intérieur qui était ce soir invité de C'est à vous. Ça, c'est notre sondage ELAB où on a interrogé les Français. Approuvez-vous les propos de Sandrine Rousseau qui mettait en avant donc ce droit à la paresse ? 51% oui et on est à 49% de oui pour Gérald Darmanin qui met en avant la valeur travail. Écoutez ce que disait le ministre de l'Intérieur ce soir.
Il faut distinguer, là encore j'ai essayé de l'évoquer moi-même, ceux qui veulent améliorer les conditions de travail, et je pense que le Parlement est là pour améliorer le texte, la question des femmes, la question des carrières longues, la question des vies pénibles. Évidemment qu'on doit amender un projet de loi, ça s'appelle un projet de loi, pour ça il faut en discuter, et c'est pas ce que fait malheureusement LFI, la NUPES, en empêchant la discussion parlementaire. Donc oui, il y a des améliorations à apporter, il faut écouter. Et puis il y a ceux qui construisent une autre société, que je distinguerai de la gauche ouvrière ou la gauche employée, que moi j'ai qualifié de gauchiste. Quand j'entends Mme Rousseau évoquer que pour elle la société idéale, c'est une société de la paresse, c'est une société sans travail, c'est du miel peut-être à entendre pour beaucoup d'entre nous. Mais il est évident que la France ne peut plus être cette grande puissance si elle rentre dans la société de la paresse. Et donc là, oui, à mon avis, on a une différence fondamentale dans la conception de ce qu'est notre société.
Je ne vais pas vous demander de vous positionner dans ce débat politique et de choisir entre Gérald Darmanin et Sandrine Rousseau. Je sais très bien que vous ne répondrez pas. Mais n'empêche, ce rapport au travail-là, et vous disiez à l'instant que souvent, maintenant, la première chose qu'on vous demande, c'est combien de jours de télétravail. Vous espérez que cette expérimentation de 4 jours par semaine, travail de 4 jours par semaine, puisse effectivement vous amener de nouveaux employés, etc. Il y a quelque chose qui a changé là aussi. On en parlait tout à l'heure, le côté travailler toujours plus pour gagner plus, etc., il est peut-être moins fort aujourd'hui en France.
Il est certainement moins fort. Les générations qui se succèdent changent, évoluent. Et moi, je dis très souvent à mes équipes, ou plutôt mes collègues de mon âge, c'est plus nous qui gérons l'entreprise ou le monde, c'est les jeunes. Donc, c'est à nous de nous adapter à eux. C'est pas l'inverse qui va se produire. Donc oui, il faut qu'on aille dans leur sens, alors on peut pas tout accepter, mais il faut qu'on travaille avec eux, dans leur direction, pour demain pouvoir continuer à recruter et avoir des compétences dans nos métiers.
Vous dites on peut pas tout accepter, quelle est la limite pour vous ?
Je peux pas mettre en péril l'entreprise.
Exactement, l'entreprise va continuer à tourner, donc quand je dis on peut pas tout accepter, c'est exactement ça. L'entreprise doit contenir à générer un résultat à la fin d'année pour pouvoir réinvestir, mais encore une fois, la majorité des 45 000 salariés, ils ont pas mon âge. Ils sont bien plus jeunes. On a une moyenne d'âge aux alentours de 30 ans chez Lidl. Donc c'est à nous de nous adapter à eux. C'est pas l'inverse qui va se produire.
C'est intéressant parce que justement, est-ce qu'il n'y a pas eu souvent une méfiance en France, notamment de la part des chefs d'entreprise, par rapport à ces jeunes qui, par exemple, si la première question est-ce qu'on peut travailler combien de jours en télétravail, mais par exemple aux États-Unis, le télétravail, mais c'est quelque chose qui est inscrit dans les mentalités, dans les habitudes depuis bien avant le Covid. Et c'est pas un pays où on travaille peu, où on travaille moins bien, mais les chefs d'entreprise ont compris qu'au contraire, la personne qui travaille de chez elle, elle peut travailler très bien. Donc, est-ce qu'il y a eu aussi un retard?
Qu'est-ce qui s'est opposé au télétravail? Sont les syndicats en France, hein? Parce qu'ils avaient plus la main sur les salariés.
Le Covid a amené un bouleversement dans cette question du télétravail. Moi, le premier, j'étais pas forcément très pour le télétravail. Mais aujourd'hui, ça se passe très bien. Dans mes services que je gère au siège, ça se passe très très bien. Donc, il y a pas de raison, quoi. Il faut juste le cadrer, l'encadrer. Mais encore une fois, il faut aller vers ce que veulent ces gens-là. Parce que c'est pas nous qui allons, dans 20 ans, gérer la boîte. Ce sont ces jeunes-là. Donc, bien évidemment, il faut les écouter. On peut pas tout accepter, mais il faut les écouter et aller vers leur sens. Parce que sinon, demain, on aura de vrais problèmes de recrutement.
Bon, merci beaucoup, Michel Biro, d'avoir été notre invité ce soir. Va falloir qu'on s'accorde maintenant pour le contrat de Roselyne.
On va en parler en dehors.
Et Jerry Lide.
Ben oui.
Tu sais que c'est hyper cool, hyper bobo, hein, Roselyne Lide.
Ben oui, non, mais je n'en doute pas.
J'ai failli amener des baskets, hein, mais j'ai pas osé.
Ça coûte. Les baskets Lidl coûtent une fortune aujourd'hui.
Une fortune.
Une fortune. Ah ben ça se revend au marché noir, ça se revend une fortune, Roselyne.
Ah, bon.
Demandez une paire de baskets. Quelle pointure?
40.
Et ben voilà. Ça, c'est noté. Merci beaucoup, en tout cas, Michel Biro, d'avoir été avec nous. Je retiens ce que vous nous avez dit tout à l'heure, on peut envisager une petite accalmie sur le front de l'inflation au deuxième semestre. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure en début d'interview. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir dans 22h Max. Dans un instant, merci évidemment Antonin, Rosine et Pauline. Merci à tous les trois.